Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Psychologie anomalistique, les explications par la personnalité et aussi les différences interindividuelles. Donc aujourd'hui, je vais couvrir le chapitre suivant du livre Anomalistic Psychology, la psychologie anomalistique de Nicolas J. Holt, Christine Simons-Moore, David Luke et Christopher C. French. On va continuer notre exploration un peu de la psychologie anomalistique. Mais avant de discuter de ce chapitre, je voudrais vous parler du livre qui s'intitule « Petites expériences extrasensorielles » que j'ai terminé tout récemment. Il s'agit du livre de Richard Wiseman, qui est donc un psychologue, un sceptique qui est très impliqué dans la recherche en parapsychologie dans une orientation sceptique. Et donc il a publié un livre qui a été un best-seller dans le monde anglo-saxon, qui s'appelle Paranormality, Why We See What Isn't There, Paranormalité, Pourquoi nous voyons ce qui n'est pas là. Le livre a été traduit par les éditions d'Unos, qui est une excellente idée. Ils ont traduit le titre a été traduit sous Petites expériences extrasensorielles, télépathie, voyance, hypnose, trois petits points, le paranormal à l'épreuve de la science. C'est un titre un peu à la rallonge. J'aurais préféré qu'il traduise plus simplement par paranormalité, pourquoi nous voyons ce qui n'est pas là, plutôt que de se lancer dans un tel titre un peu bizarroïde. Enfin bon, c'est une critique un peu mineure, et puis c'est quand même une très bonne chose qu'ils aient décidé de traduire en français ce livre de Richard Wiseman. On dit souvent, je discute par exemple avec Patrice Serret qui publie la collection du forum Scepticovni, et il me dit oui, mais le scepticisme ça ne se vend pas. C'est vrai que globalement le scepticisme en langue française ne se vend pas très bien. Bien que l'ouvrage de Georges Charpak et Henri Brock, Devenez sorcier, devenez savant, à mon avis, c'est relativement bien vendu. Mais c'est vrai qu'on dit le scepticisme ne se vend pas, les livres qui disent que le phénomène OVNI n'est pas d'origine extraterrestre, ça ne se vend pas, on ne les trouve pas en librairie, on peut que les commander sur Internet. Par contre, toutes les, entre guillemets, mauvaises librairies, la plupart des librairies vendent, même les librairies à mon université, vendent toutes sortes de bouquins, de tenants, de l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI, et toutes sortes d'autres sujets, Nouvel Âge. C'est très facile de trouver de la littérature de tenants, ils traduisent des gens comme Dean Radin, tous les tenants de la science noétique et tous ces gens-là. Mais évidemment, bon, beaucoup plus difficile d'avoir de la littérature sceptique. Dans le monde anglo-saxon, il y a toute une série de livres écrit par des sceptiques qui se vendent extrêmement bien, qui sont des best-sellers, qui sont vraiment des succès de publication, entre autres les bouquins de vulgarisation scientifique de Richard Wiseman, dont ce Paranormality, ou encore les livres de Shermer, etc. Donc, bon, c'est encore la différence entre le scepticisme dans le monde anglo-saxon et le scepticisme dans le monde francophone, mais dans le monde anglo-saxon, il y a du scepticisme qui se vend relativement bien. Bon, quand j'ai pris l'ouvrage, je voulais le lire depuis un bon moment, puisque je m'intéresse à la parapsychologie, à la psychologie anomalistique, et j'ai lu pas mal de Richard Wiseman par le passé. Donc évidemment, je voulais lire Paranormality, mais j'en avais pas eu l'occasion de le commander en anglais. Puis je suis tombé sur la traduction en français de Duno, donc dans une des librairies universitaires que je fréquente, donc je l'ai pris. Je dois dire que la première chose qui m'a frappé, c'est que, en l'ouvrant ce livre, en le découvrant, au-delà des interviews de Richard Wiseman que j'avais entendues sur des podcasts, etc., j'étais un peu déçu. La raison, c'est que je m'attendais à une discussion beaucoup plus académique de l'état du débat sur l'existence ou non d'authentiques processus paranormaux. Parce que d'habitude, ce que je lis de Richard Wiseman est plutôt très technique, très pointu. Un des derniers que j'ai lu de lui, s'appelait Deception and Self-Deception, tromperie et se tromper. Par exemple, et là, c'était juste un recueil qui regroupait toutes sortes d'articles d'articles scientifiques qu'il avait publiés dans la littérature parapsychologique sur des recherches qu'il avait faites. Donc c'était très technique, d'un niveau très universitaire. ce que j'avais lu jusqu'à présent de Richard Wiseman, c'était toujours un peu ses écrits techniques. C'est vrai que j'ai jamais lu, j'avais pas lu ses autres bouquins de vulgarisation, comme Petit traité de bizarrologie ou 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Du coup, voilà, j'étais un peu surpris de découvrir le Wiseman, Richard Wiseman, vulgarisateur, disons. Bon, une fois que j'ai compris ce que j'avais en main, c'est-à-dire un ouvrage de vulgarisation scientifique, je trouvais qu'il était excellent dans le style. Mais donc, une fois que j'ai découvert c'est ça que j'avais en main, je l'ai trouvé très bien. C'est un excellent livre que vous pouvez donner à quelqu'un qui ne connaît pas le scepticisme pour lui faire découvrir la critique sceptique du paranormal. Bah, même à un sceptique, je veux dire, qui s'intéresse au scepticisme, je veux dire, de manière pas trop approfondie, ou qui s'intéresse à d'autres sujets que le paranormal, c'est quand même un livre qui couvre pas mal de basics, quoi, les bases des choses à connaître sur le paranormal. Donc, il couvre énormément de choses dans ce livre, chapitre par chapitre, encore une fois, avec des exercices à faire, avec beaucoup de pédagogie et beaucoup d'humour. Et alors, oui, ce qui est important, c'est qu'il couvre beaucoup de psychologie. Donc, il essaie d'illustrer comment la psychologie éclaire pourquoi les gens croient dans le paranormal. Et donc, en fait, finalement, il utilise. On voit que parfois, il utilise vraiment un sujet paranormal pour illustrer une notion en psychologie. Et donc, ça pourrait être utilisé pour enseigner la psychologie de manière amusante. Parce qu'on sait bien que les gens s'intéressent au paranormal. Donc le livre est très psychologique, tandis que parfois, les discussions de type plus parapsychologique sont finalement moins grandes. C'est pratiquement un livre de psychologie du paranormal et pas de parapsychologie. Ce qu'il rapproche évidemment de la psychologie animalistique dont on a parlé. Au niveau des sujets qu'il couvre, il parle de la voyance, donc là il explique ce qu'est la lecture froide, les sorties hors du corps. Donc là il discute de comment on perçoit les limites de notre corps, comment le cerveau crée le fait qu'on a la perception que par exemple notre bras est notre bras, parce qu'on pourrait avoir la sensation que notre bras n'est pas notre bras. C'est une sensation qui est créée par notre cerveau, et chez certaines personnes ça peut mal fonctionner pour des raisons X ou Y. Ou bien les personnes qui ont perdu leur bras peuvent encore avoir la sensation que le bras existe. Donc ils discutent de ce sujet-là. La psychokinèse, là c'est bon évidemment classique, Uri Geller, comment on tord les cuillères, etc. Alors le spiritisme, là encore, il aborde la tricherie autour, enfin, les trucs d'illusionnisme, de mentalisme pour générer des séances spirites. Et puis aussi la question du témoignage humain. Est-ce que le témoignage humain est fiable lorsque les gens rapportent ce qu'ils ont vécu durant les séances spirites? Bon, on sait que non, évidemment. Les phénomènes de hantise. Voilà aussi différentes explications pourquoi les gens pensent qu'une maison est hantée. Et bon, évidemment, ils discutent pas mal de la suggestibilité. Puis finalement, ils discutent du mentalisme en lui-même, donc du côté des illusionnistes, la simulation des phénomènes paranormaux. Et le dernier chapitre est consacré aux rêves prémonitoires. Donc voilà, il couvre toute une série de sujets qu'il traite sous un ordre, sous l'angle de je vais utiliser ces sujets pour expliquer des notions de psychologie. Et je dois dire que même si je lis énormément de bouquins de parapsychologie, de psychologie animalistique, etc., il a quand même, bon, il y a des sujets, il y a des passages où bon, c'était de l'archi connu, etc. Bon, évidemment de l'archi connu pour quelqu'un qui connaît déjà bien la littérature, mais il y a quand même des moments où il abordait des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Et il y a des chapitres aussi où il couvre ses propres recherches. Alors évidemment, moi j'ai pas mal suivi la carrière de Richard Wiseman, mais bon, il présente, il vulgarise ses propres travaux. Par exemple, à propos de JT, le chien qui est supposé savoir quand son maître entre à la maison, ou encore certains des tests des médiums qu'il a réalisés. Bon, évidemment, le livre a été, sans surprise, extrêmement critiqué par les tenants de l'existence d'authentiques processus paranormaux. Bon, Richard Wiseman, c'est un peu la bête noire des parapsychologues, hein, faut bien le dire. Et une des grandes stratégies je pense, des tenants à l'heure actuelle, c'est de faire croire que les sceptiques qui critiquent la parapsychologie sont juste incompétents ou malhonnêtes intellectuellement. Si vous lisez des tenants, ils vont vous dire: Ah, ben James Randi, il est juste malhonnête intellectuellement. Ils les dépeignent vraiment sous un jour. J'ai du mal à reconnaître, quand je lis ce que les tenants disent à propos des sceptiques de la parapsychologie, j'ai du mal à les reconnaître dans le portrait qu'ils en font. Sans surprise, donc, ils ont critiqué le livre principalement sur le fait qu'il n'engage pas réellement la littérature parapsychologique défendant la position contradictoire, c'est-à-dire que d'authentiques processus paranormaux existent. Bon, je pense que c'est vrai, comme je l'ai expliqué, le livre a un angle résolument psychologique, et Richard Wiseman dit, bon, moi je crois pas au paranormal, il est assez clair sur ses propres positions sceptiques, mais il ne contre-argumente pas la parapsychologie. Par exemple, il parle pas du Ganzfeld et pourquoi il est sceptique des résultats du Ganzfeld. Mais je dois dire, comme je l'ai expliqué, c'est pas le but du livre. Donc la question finalement, c'est est-ce qu'un livre de vulgarisation scientifique, qui a pour but aussi d'introduire au grand public des notions de psychologie, plus que de parapsychologie, devait impérativement débattre de la position des tenants? Bon, ça se discute. Moi, je peux comprendre le choix qui a été fait, justement dans le but, parce que bon, le but de Richard Wiseman, c'est de faire un best-seller, donc il voulait pas alourdir le livre avec toutes des discussions très pointues de contre-argumentation. Donc je prends l'exemple, parce qu'évidemment il y a eu le débat entre Richard Wiseman et Rupert Sheldrake à propos de JT, donc le chien dont on a dit qu'il était capable de savoir quand son maître rentre à la maison. Donc tout ce que dit Wiseman parle de JT dans le livre, il dit ben voilà, il explique l'étude, la petite recherche que lui il a fait sur le sujet, et dit ben, j'en ai conclu que JT n'a pas de dons paranormaux. Mais évidemment, Rupert Sheldrake a fait sa propre étude et a conclu exactement l'inverse. Et donc, tout ce qu'en dit Wiseman, c'est en note de bas de page, et il dit Rupert Sheldrake a également mené des recherches sur JT et croit que ses résultats fournissent la preuve d'une aptitude paranormale. Ses travaux sont décrits dans son livre Dogs That Know When Their Owners Are Coming Home, donc les chiens qui savent quand leur maître rentre à la maison. Ma réponse sur ces études est consultable sur http://www.richardwiseman.com/jt.html en anglais. Bon, voilà, c'est tout ce qu'il met. C'est vrai qu'il contre-argumente pas. Bah, c'est vrai que ça a rendu les tenants relativement furieux, mais. Juste pour expliquer un peu comment ça s'est passé, donc JT, donc un chien dont le maître avait l'impression que il allait à la fenêtre à chaque fois que il était en train de rentrer à la maison, donc quelqu'un observait le maître était au travail, il s'apprêtait à rentrer à la maison et quelqu'un observait que le chien allait systématiquement à la fenêtre à ce moment-là. C'est passé à la TV, hein, donc il y a eu je sais plus trop, j'ai pas vu le documentaire, mais une sorte de documentaire où l'affirmation a été faite, voilà, le chien va systématiquement à la fenêtre lorsque le maître rentre à la maison. Rupert Sheldrake, qui est au départ donc un biologiste, il aime bien faire des expériences différentes de celles de Rhine, parce que celles de Rhine sont très artificielles, vous savez, deviner des cartes Zener, etc. Rupert Sheldrake, sa carrière, il l'a bâti en parapsychologie sur l'idée qu'il faut faire des expériences qui sont plus proches des situations de la vie de tous les jours. Deviner, enfin, par exemple, essayer de deviner qui est en train de vous téléphoner, ou etc. Donc ici, ça l'intéressait, voilà un chien qui est capable de voir, enfin, de manière, via le psy, donc de déterminer que son maître est en train de rentrer à la maison. Plus, il y a un des avantages, c'est qu'un être humain peut essayer de vous tromper en trichant, mais un chien, n'aura pas la volonté de tricher lors d'une expérience. Rupert Sheldrake décide de faire l'expérience, il installe des caméras pour observer où se trouve le chien quand le maître est en train de rentrer à la maison. Et puis après, l'expérience est assez facile, hein. On fait rentrer le maître à la maison de manière aléatoire. Et alors on voit si. Alors là, c'est là que se situe la différence entre l'approche de Wiseman et de Sheldrake. Donc à ce moment-là rentre en jeu Wiseman qui se dit je vais étudier le sujet. Sheldrake lui prête son matériel, donc c'est ce qui fait toujours un peu jaser. Voilà, Sheldrake a la bonté de lui prêter son matériel vidéo. Mais Richard Wiseman fait son test, mais il en fait très peu, il en fait 3 ou 4. 4, un truc comme, je crois 4 en tout. Et ce qu'il observe, ben, c'est que le chien va régulièrement à la fenêtre, y compris quand son maître n'est pas en train de revenir à la maison. Et vous vous souvenez que ce qui avait été affirmé dans le documentaire, c'était le chien va systématiquement à la fenêtre quand son maître vient à la maison. Mais là, ici, il se fait que le chien va parfois à la fenêtre quand son maître n'est pas en train de revenir à la maison, et parfois, il ne va pas à la fenêtre quand son maître est en train de revenir à la maison. Et donc, Richard Wiseman dit, ben voilà, j'ai réfuté l'affirmation qui était faite, c'est-à-dire le chien va systématiquement à la fenêtre quand son maître est en train de revenir à la maison. Après ça, Rupert Sheldrake fait une expérience, lui, beaucoup plus longue, il fait des centaines d'essais. Et il fait évidemment des analyses statistiques assez comme Sheldrake en a l'habitude. Et alors lui, il fait des statistiques et il dit, voilà, en moyenne, le chien passe plus de temps à la fenêtre quand le maître est en train de rentrer à la maison que quand il n'est pas en train de rentrer à la maison. Et si on rentre les 4 essais réalisés par Wiseman, ils vont dans le sens de Sheldrake. Donc là, il y a déjà deux critiques, c'était de dire, ben voilà, Wiseman ne rend pas à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'il ne mentionne pas vraiment Rupert Sheldrake, par exemple, dans Paranormality, alors qu'il a même, Sheldrake lui a carrément prêté son matériel. Et puis, Wiseman, donc, dans certaines interviews, il avait fini par reconnaître que ses résultats étaient compatibles avec ceux de Sheldrake. Mais évidemment, Wiseman continue à considérer que Sheldrake, comme je l'ai dit dans la citation, n'a pas réellement prouvé que JT était médium. Bon, évidemment, JT il est décédé maintenant, donc on peut plus rien y faire. Bon, je crois aussi que Wiseman il s'est un peu lancé dans cette controverse à l'époque. Il était encore un chercheur débutant et il s'est pas rendu compte dans quoi il allait que 10 années après au moins. On allait encore lui prendre la tête avec ça. Alors moi, je vais vous dire un peu comment je lis ce débat. Donc cette question-là, c'est celle qui est toujours utilisée pour dire, oh, voyez comme Richard Wiseman est malhonnête, il rend pas à César ce qui est à César, il dit pas que Sheldrake lui a prêté son matériel, et puis il a fait que 4 malheureux tests, Sheldrake en a fait des centaines, les résultats de Wiseman sont compatibles avec les résultats de Sheldrake, donc en fait, Wiseman devrait dire qu'à l'heure actuelle, ses travaux et ceux de Sheldrake ont confirmé que JT était réellement médium, si vous voulez. C'est ça la critique, hein. Il le fait pas, il oublie de mentionner tout ça... Lorsqu'il en parle à la presse ou dans Paranormality, donc il est malhonnête, voilà, malhonnête intellectuellement. Il manipule les gens, il manipule les sceptiques qui de toute façon sont très bêtes et qui ne lisent que les autres sceptiques, donc la plupart des sceptiques ne lisent que Richard Wiseman, donc ils sont pas au courant de cette histoire avec Sheldrake. C'est bien pour ça que je vous l'explique, hein, c'est parce que je suis pas au courant, non. C'est toujours l'argument, je vous le donne tel qu'on je le lis sans arrêt chez les tenants. Hein. Les sceptiques sont pas au courant de ce conflit, etc. Moi, je vais vous donner mon interprétation de la chose que j'ai jamais lue nulle part et qui pourtant est au cœur du débat en parapsychologie. Il y a deux façons radicalement différentes d'étudier le paranormal, je dirais. La première, c'est de tester les médiums. Et la deuxième, c'est de faire des études expérimentales pour essayer de mettre en évidence l'existence du psy. Alors, la première méthode est largement favorisée par les sceptiques, qui n'aiment pas la deuxième, et tandis que les parapsychologues largement n'aiment pas la première méthode, mais ils adorent la deuxième. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Richard Wiseman a écrit deux ouvrages, deux écrits techniques, donc de méthodologie, qui traitent chacun de ces deux méthodes. Le premier, il l'a publié en 1995, qui s'appelle Guidelines for Testing Psychic Claimants, donc des consignes pour tester les médiums. Et le deuxième, oui, il l'a écrit avec chaque fois un collaborateur, mais bon, ça n'a pas d'importance. Et le deuxième, il a publié en 97, et ça s'appelle Guidelines for Extrasensory Perception Research, donc des conseils pour faire des recherches sur les perceptions extrasensorielles. Donc, du côté des premiers, comment tester un médium? Une des règles que, par exemple, respecte tout à fait l'observateur zététique et Richard Wiseman, c'est de dire on prend la prétention du médium telle qu'il l'affirme, c'est-à-dire on demande au médium. Qu'est-ce que vous prétendez pouvoir faire? On demande au sorcier, qu'est-ce que vous prétendez pouvoir faire? Dans le deuxième, on s'en fout de savoir ce que les gens prétendent. Simplement, d'ailleurs, on va en général tester des gens tout venant, on ne cherchera pas des sujets particulièrement doués. C'est le chercheur qui fait les hypothèses sur qu'est-ce qu'il pense, lui, aide à manifester le psy. Par exemple, dans la dernière recherche de Dean, pas de Dean Radin, il dit, voilà, les gens, on détecte plus facilement des stimuli pornographiques parce qu'on aurait été, je sais pas, programmé par l'évolution pour, de manière prémonitoire, déterminer quand on aura des relations sexuelles un peu à l'avance. C'est un des points qui est mentionné rapidement dans l'étude de BEM, mais voilà, c'est une théorisation proposée par BEM pour expliquer certains des résultats qu'il a eus dans son étude. Mais ça, c'est le parapsychologue qui spécule. Il s'agit pas de demander à la personne qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Tandis que du côté tester des médiums, là, on dit, voilà, vous testez un sorcier, on dit, ben, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire? Et on teste ce qu'il pense pouvoir faire. Il prétend pouvoir, par exemple, si c'est un sorcier, détecter l'eau avec ses baguettes, c'est ça qu'on teste. Et on lui demande, avec quel pourcentage d'efficacité, etc. Et on essaye de le mettre dans les meilleures conditions. Donc il y a tout un travail. Je ne vais pas revenir là-dessus, l'EZ l'explique régulièrement. Et j'avais interviewé Florent Martin-Michelot, vous pouvez retourner, où il explique ce processus, mais on construit le protocole pour tester sa prétention. La deuxième catégorie, je les recherche sur les perceptions extrasensorielles, on ne fait pas ça. La manière dont Wiseman a abordé JT, c'était dans la catégorie tester les médiums. Simplement, son médium, c'était un chien. La manière dont Sheldrake a abordé JT, c'était la recherche en PES. Je pense que c'est une division qui est très importante entre ce que les sceptiques et les tenants préfèrent. Encore une fois, pour revenir à Wiseman, voilà, la prétention qu'on avait donnée dans ce documentaire, c'était que le chien allait systématiquement à la fenêtre quand le maître entrait à la maison, et c'est ça qu'il a testé. Il a montré que ce n'était pas toujours le cas, etc., et qu'il allait à la fenêtre à d'autres moments. Donc il a réfuté cette affirmation. Sheldrake ne s'est pas préoccupé de ça, il s'est préoccupé de ses propres idées, de ses propres hypothèses, etc. Je pense que c'est une division très importante à comprendre, et je suis toujours étonné que dans ce conflit entre Wiseman et Sheldrake, on n'en parle jamais, parce que ça me paraît assez flagrant. Et je pense que cette différence méthodologique et épistémologique entre les sceptiques, l'approche des sceptiques et l'approche des tenants est très importante. Les sceptiques préfèrent tester les médiums sur les affirmations qu'ils font, parce que c'est ça. Le but, c'est de savoir est-ce que les voyants sont capables de faire ce qu'ils prétendent faire. On fait moins confiance aux études statistiques, parce que mettre en évidence l'existence du psy de manière statistique, ça nous paraît problématique pour des tas de raisons dont j'ai déjà expliqué sur le balado. Je pense aussi que c'est un autre point qu'on n'évoque pas souvent, mais je pense que c'est vrai, c'est que les sceptiques, quand ils sont sceptiques, du paranormal, c'est qu'ils pensent que les sorciers ne sont pas capables de faire ce qu'ils prétendent savoir faire, ou qu'ils pensent que les voyants ne sont pas capables de faire ce qu'ils prétendent savoir faire. Par exemple, on dit, ben voilà, les voyants ne communiquent pas réellement avec l'esprit des morts, par exemple les spirites. Mais en fait, il y a pas mal de parapsychologues qui sont d'accord avec ça. Ils pensent que l'hypothèse des esprits a été réfutée, même depuis la métapsychique du 19e siècle. Ils sont d'accord avec les sceptiques en fait. Simplement, ils disent, ah, mais il y a le psy, en réalité, le médium chercherait des informations via des moyens. Par exemple, s'il a en face de lui une personne qui lui demande à parler d'un proche, ben, en fait, le voyant va lire dans son esprit les informations concernant cette personne et n'est pas réellement en contact avec un esprit désincarné. Je pense que c'est une différence entre deux approches méthodologiques qui sont importants. Et d'ailleurs, il y avait eu des débats assez houleux entre le GIMI, donc le groupe étudiant de l'Institut Métapsychique International, et l'Observatoire Zététique il y a quelques années de ça. Et je pense que, en fait, le cœur de ce débat franchement très houleux, c'était ça. C'est-à-dire que l'EZ défendait le test des médiums, comme le fait James Randi dans le Million Dollar Challenge. Les membres du GIMI, eux, ils défendaient l'approche faire des recherches sur les perceptions extrasensorielles d'un autre type, quoi, donc plutôt Ganzfeld, etc. Mais même si on montre que le psy existe de manière très subtile, que c'est un effet très faible, comme par exemple, mettons qu'on arrive à répliquer, bon, d'ailleurs, il y a Wiseman, French, et un troisième chercheur qui ont essayé de publier donc leur échec de réplication de l'étude de BEM, et qui ont eu beaucoup de mal à le publier. C'est une autre histoire. Mais mettons que l'effet de Daryl Bem est vrai, c'est-à-dire que une fraction de seconde avant qu'on vous montre une photo pornographique, vous ayez une intuition du futur et que vous sachiez qu'on va vous montrer une photo porno. Mettons que cet effet soit vrai, il y a une différence énorme entre cette prétention-là, dont il faut trouver une explication. Mettons que si l'effet est réel, on peut trouver une explication matérialiste qui sait. Les parapsychologues diront au niveau de la physique quantique, je sais pas, on peut toujours imaginer. On ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir sur le monde à l'heure actuelle. Il y a une différence énorme entre cette affirmation-là et dire quelqu'un comme John Edward, donc un médium très célèbre aux États-Unis, capable de dialoguer avec l'esprit des morts. Hein, vous voyez? Voilà, donc j'ai fait un petit détour par la critique, enfin par le conflit entre Richard Wiseman et Rupert Sheldrake pour vous donner une idée du débat. Mais donc évidemment, de tout ça, vous n'en verrez rien dans Paranormality. Petite expérience extrasensorielle. Alors à vous de voir si c'est vraiment un problème ou pas. Bon, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à lire Petites expériences extrasensorielles. Et voilà, donc je peux comprendre qu'il soit pas forcément rentré systématiquement dans le cœur des débats, parce que ça aurait largement alourdi le propos pour le grand public. Alors, est-ce que c'est malhonnête intellectuellement de faire ça? Ça, c'est à vous de juger. En conclusion, donc, petite expérience extrasensorielle aux éditions Dunod est un excellent livre pour faire découvrir l'approche sceptique des phénomènes paranormaux et le scepticisme de manière générale, je dirais. Discutons maintenant du chapitre 3 de l'ouvrage Anomalistic Psychology, psychologie anomalistique, qui s'intitule Personality and Individual Difference Explanations, donc les explications par la personnalité et les différences individuelles. Je ne vais pas aller en détail dans ce chapitre, c'est un chapitre justement relativement technique, donc qui traite des traits, il prend différents traits de personnalité et il voit si ça influence la croyance au paranormal. Donc la question, on peut la formuler sous la forme suivante. On établit qu'il y a des anomaly prone personality des gens, donc des personnalités enclines à l'anomalie, aux expériences inhabituelles, aux expériences anormales. C'est des gens qui rapportent en moyenne beaucoup plus. Bon, ça c'est ce qu'on observe, c'est qu'il y a des gens qui, bon, ils sont des multi-expérienceurs, c'est moi qui utilise ce terme, mais je pense que ça dit bien ce que ça veut dire. Non seulement ils vont voir des ovnis, mais ils vont aussi avoir des cognitions paranormales, par exemple des flashs de voyance, des rêves prémonitoires, et ils vont aussi avoir des sorties du corps, etc. Alors que la plupart, bon, les sceptiques, on voit qu'en moyenne, moi j'ai jamais eu d'expérience paranormale à ma connaissance, je m'en souviens pas, enfin si j'en ai une, ça ne me dit rien, enfin j'ai toujours trouvé des explications rationnelles pour les expériences que j'avais. J'ai des terreurs nocturnes, donc ça m'arrive d'avoir des hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques, donc au moment du réveil ou juste avant l'endormissement, je vois des choses pas très catholiques, hein, des monstres, etc. Mais je veux dire, bon, j'ai étudié la psycho, je sais bien que c'est lié au fait que j'ai des terreurs nocturnes. Bon, c'est vrai que des gens qui ne le savent pas attribueraient ça peut-être réellement à une présence démoniaque, etc. Mais enfin, moi, je sais bien que c'est lié à mon cycle du sommeil. Rien de très paranormal. S'il y a des gens qui rapportent en moyenne beaucoup plus que d'autres, bon, on peut se demander, est-ce qu'ils ont des traits de personnalité ou des structures de personnalité qui les prédisposent à avoir des expériences inhabituelles. Alors ils discutent, je vais les parcourir, enfin je vais vous les mentionner, ils discutent de l'extraversion et des personnalités qui recherchent les sensations, de l'ouverture à l'expérience et de l'inclinaison à la fantaisie, ou à quel point on est, enfin la fantasy proneness, à quel point on s'immerge dans notre vie imaginaire. Le neuroticisme, le lieu de contrôle, la schizotypie, l'intelligence et la pensée critique, et enfin la créativité. Et puis ils discutent aussi de la neuropsychologie, des expériences inhabituelles. Alors je ne vais pas rentrer dans chacun des domaines, d'ailleurs ces termes, si vous n'avez pas étudié la psycho, si vous n'êtes pas familiarisé avec la psychologie, ça ne doit pas vous dire grand-chose, la schizotypie, etc. Mais ça prendrait trop de temps et ce serait trop technique d'aller dans le détail. Il faut savoir que ces études se font, c'est des études corrélatives, donc encore une fois, corrélation n'est pas causation, mais c'est des études corrélatives. On fait passer aux gens un questionnaire de croyance au paranormal et puis des questionnaires d'évaluation de la personnalité. J'ai fait une recherche de ce type-là moi-même dans mon diplôme d'études approfondies en psychologie de la religion. Un des problèmes, c'est que les échelles de croyances au paranormal, elle mélange toutes sortes de croyances au paranormal. Par exemple, la plus utilisée, c'est la Paranormal Belief Scale, l'échelle de croyances au paranormal de Tobasic et Milford, révisée ou pas. Elle mixe, par exemple, les croyances superstitieuses, toucher du bois, passer sous les échelles, etc. Avec certaines croyances religieuses du type « je crois que l'enfer existe », avec des croyances du type « je crois que le monstre du Loch Ness existe », avec « je crois en l'astrologie, je crois qu'il est possible de lire les esprits ». Et en fait, à lire ce chapitre, on voit que les résultats sont mitigés, simplement parce que, justement, il y a des traits de personnalité qui corrèlent avec certaines de ces croyances, mais pas avec l'ensemble de ces croyances. Par exemple, le lieu de contrôle, qu'on sait que certaines personnes vont attribuer aux événements qui leur arrivent, ils vont dire « bon, c'est ma faute » ou bien « c'est la faute des autres », pour le dire tout simplement. J'ai un accident de voiture, certaines personnes vont avoir après l'accident, on va avoir tendance à penser « c'est de ma faute parce que j'ai mal conduit » ou « c'est de la faute de l'autre conducteur » on attribue, ou bien si vous avez un examen, vous avez tendance à dire j'ai raté parce que j'ai pas assez étudié, ou j'ai raté parce que le prof est vache. Et donc c'est un trait de personnalité. Indépendamment de la réalité objective, les gens vont aussi, bon, ça, la réalité objective va entrer en compte, mais ils vont avoir tendance à plus s'attribuer vers soi-même ou vers l'extérieur. C'est ça le biais de contrôle. Ben, les gens qui attribuent plutôt vers l'extérieur, c'est assez logique de faire l'hypothèse qu'ils vont plutôt croire dans les choses qui leur permettent, qui leur donnent un contrôle illusoire, si on ne croit pas au paranormal, du type à la voyance, à l'astrologie, parce que ça leur dit, ben voilà, le monde, les étoiles vous influencent, par exemple, l'astrologie. Ben oui, donc ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des étoiles, de la positionnement des astres. Tandis que si vous avez un lieu de contrôle, donc ça c'est un lieu de contrôle externe. Si vous avez un lieu de contrôle interne, vous n'avez pas attribué beaucoup d'importance aux astres, vous allez dire, ce qui m'arrive, c'est de ma faute, j'ai pas assez étudié, j'avais bu un peu d'alcool ce soir-là, etc. Mais évidemment, on ne voit pas comment le lieu de contrôle pourrait influencer la croyance dans l'existence du monstre du Loch Ness. Donc ces échelles qui donnent un score global des croyances au paranormal, évidemment, c'est assez logique que, il me semble en tout cas, que ça soit assez mitigé. Parce que simplement, ils mélangent toutes sortes de croyances qui ne sont en fait connectées entre elles que parce que la culture les qualifie de paranormales. Mais comme je le dis très souvent, paranormal, ça veut strictement rien dire. Je veux dire, si même vous dites que le paranormal, c'est juste le mot contemporain pour dire surnaturel, ben, le monstre du Loch Ness, la plupart des gens ne croient pas que c'est surnaturel, ils croient que c'est un plésiosaure, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Donc dans les années 80, certains chercheurs ont, entre guillemets, découvert l'existence d'une structure de personnalité. Alors est-ce que c'est une structure de personnalité? Maintenant, on a plutôt tendance à parler d'un trait de personnalité, mais à l'époque, ils parlaient d'une structure, c'est-à-dire la personnalité encline à la fantaisie. Ces gens seraient non pathologiques. Ce ne serait pas une pathologie parce qu'ils pourraient vivre tout à fait normalement, mais ils auraient certaines caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils verraient leur imaginaire aussi réel que le réel. Donc, ils auraient tendance à confondre leur vie imaginaire ou avoir du mal à distinguer ce qu'ils imaginent de ce qui arrive réellement. Bon, maintenant, si on pense la chose sous le terme d'un continuum, c'est-à-dire que les gens, par exemple, ça vous arrive de rêvasser, il y a des gens qui vont être d'un côté du continuum, leur rêverie va être relativement courte et elle va pas être très prenante. Tandis que d'autres gens, leur rêverie va être relativement longue. Et ça va être une sorte de cinéma intérieur qu'ils arrivent à se jouer. Si on prend l'extrême du continuum, il y a des gens qui seraient plongés dans une rêverie qui tellement importante qu'ils auraient du mal à s'en dégager, au point que ça pourrait les gêner dans leur vie de tous les jours. Non seulement ça, mais en fait leur rêverie serait tellement vivace, donc quand ils sont perdus dans leurs pensées, ils seraient tellement immergés dans leurs propres pensées qu'ils auraient finalement du mal à distinguer ce dont ils ont imaginé de ce qui est réellement arrivé. L'exemple que je prends souvent quand je parle des ovnis, alors je le cite de mémoire, mais ça fait longtemps que je ne l'ai plus lu, Whitley Strieber, qui est un écrivain de science-fiction, il avait écrit The Hunger, un roman qui était adapté au cinéma avec David Bowie, donc une histoire de vampire. Bon, par la suite, il a cru qu'il avait été enlevé par des extraterrestres. Donc il y a toute une série de critères qui permettent de déterminer si vous êtes engagé très fort dans la vie imaginaire. Par exemple, est-ce que vous êtes aisément suggestionnable? Est-ce que vous avez des souvenirs, entre guillemets, qui remontent avant vos 4 ans? Enfin, il y a des... Bon, parce qu'en réalité, on ne se souvient pas de ce qui est arrivé avant 4 ans. Donc les gens qui ont ce genre de souvenirs, c'est probablement parce qu'ils se créent aisément des faux souvenirs. Donc il y a des échelles qui mesurent ce genre de traits de personnalité. Et donc Whitley Strieber, ah oui, donc ces personnes aussi, elles sont plongées dans leur vie imaginaire de manière très intense, mais donc ça leur, non seulement c'est pas pathologique, mais ça présente un avantage au niveau de la créativité. Donc Whitley Strieber, bah, il est écrivain, et donc à un moment donné, il a cru qu'il avait été enlevé par des extraterrestres, mais dans un de ses livres, quand on lit, bon, c'est une biographie de son abduction, de ses enlèvements. Il y a un moment très, très amusant, c'est-à-dire que, si mes souvenirs sont bons, il est dans son jardin et il voit une sorte de diamant qui est en train de se poser dans son jardin. Il va à l'intérieur, il dit à sa femme, viens voir qu'est-ce qui se passe dans le jardin, il y a un diamant géant qui est en train de se poser. Et sa femme, même dans la biographie donc, écrite par Strieber lui-même, elle a l'air de complètement ça a l'air de pas l'étonner, quoi. Elle a pas l'air de vouloir aller voir, et c'est vraiment dans le style. Oh, mais non, mais tu vois toujours des choses bizarres, donc c'est normal, c'est encore un de tes trucs habituels. Et donc, c'est une des anecdotes qui montre que Whitley Strieber aurait peut-être un fort engagement dans la vie imaginaire, parce qu'en fait, ses proches le savent, donc oh, ils s'étonnent même plus que Strieber raconte ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est l'engagement dans la vie imaginaire. Et alors, pour terminer, Harvey J. Erwin, dont je vous ai déjà régulièrement parlé, lui propose carrément un modèle explicatif, donc basé sur les recherches qui ont été réalisées pour expliquer la croyance au paranormal. Son modèle, c'est que les gens qui ont une enfance malheureuse pour une raison ou une autre, par exemple un mauvais attachement avec la maman, des parents alcooliques ou des enfants battus, etc., ils auraient donc, à cause de ça, eu des degrés d'anxiété importants. Et par la suite, ils recherchent des moyens de contrôler le monde extérieur, même des moyens illusoires. Et donc, une enfance malheureuse inciterait à rechercher des moyens de contrôler le monde extérieur pour se rassurer. Et donc, de manière immédiate, cela amènerait à une plus grande croyance au paranormal. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, dans la discussion en détail des expériences qu'il a réalisées, etc., pour en arriver à conceptualiser ce modèle. Et puis le modèle dans son livre est quand même plus élaboré que ça. Là, c'est un peu la version rapide et quick and dirty. La version rapide et pas très détaillée, enfin voilà, vulgarisée. Mais donc dans le livre Anomalistic Psychology, ils reconnaissent qu'à l'heure actuelle, c'est quand même le modèle qui est le plus fondé empiriquement parlant. C'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre.
You know, when you look at quotes that you're used to reading, and you're like, oh, I've seen that bumper sticker before, it no longer resonates, it no longer inspires. I think it's because of this thing of hedonic adaptation. You know, the more you get exposed to something, even if it's a profound truth, you become blind to it. We're all neophiliacs. But I think that it's important to return to things that are meaningful and bathe inside of them. Return to things that are important. See the world in a grain of sand, and heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand, or eternity in an hour. How do we put ourselves into that meditative headspace where the feedback loops between our creative and linguistic choices and our consciousness leads to the kind of self-amplifying positivity, inspiration, feel-good vibe, innovative thinking, liquid flow? How to get to that headspace? Shake up the rug from underneath your feet. Up the rug from underneath. Disruption makes things new again. It makes ideas fresh. Return to things that are meaningful and bathe inside of them. Partake in those things that will somehow make us come alive.